France Culture.
Esprit de justice qui continue sa série sur ce qu'on appelle le syndrome vicariant et plus généralement sur les émotions des professionnels et comment les gérer. Et ce soir, on va s'intéresser à ce qui se passe dans la tête d'un juge. Que se passe-t-il dans la tête d'un juge ? Lui-même le sait-il d'ailleurs ? Il s'efforce avec conscience et en conscience d'appliquer la loi comme un professionnel en portant un regard informé mais aussi détaché sur une situation. Mais suffit-il de vouloir être détaché pour l'être véritablement ? Les juges sont aussi en proie à des émotions, comme tout à chacun, voire plus que tout à chacun, car ils sont en face de dilemmes terribles, de situations tragiques. Ils côtoient la souffrance sociale et la déraison humaine. Ils sont confrontés parfois à l'extrême violence et doivent surmonter toutes leurs émotions pour bien juger. Tous les juges ne sont pas exposés de la même manière, selon qu'ils statuent en audience, et alors ils sont protégés par le rituel, ou qu'ils exercent au contraire leur fonction en cabinet au plus proche des justiciables. Mais aucun d'entre eux n'échappe à l'emprise, plus ou moins consciente, on y reviendra, de son misérable tas de secrets, comme disait Malraux, qui peut interférer sur sa perception de la situation et donc sur sa décision. Comment conjuguer l'impartialité qui est attendue de lui avec sa subjectivité qui s'impose à lui. Première chose à faire est de prendre conscience de ses émotions, puis de travailler son attitude intérieure dans le but, par exemple, de dépasser le sentiment spontané que lui inspirent les justiciables. Il ne doit pas refouler ses émotions, mais les analyser rapidement dans le but de s'en faire des alliés, car on ne juge pas contre ses émotions, mais avec ses émotions, et le juge doit toujours se sentir en lien avec lui-même. Le travail de justice commence ainsi dans l'intériorité du juge, dans un retour sur soi, en vue de repérer ce qui peut troubler le jugement, comme des biais cognitifs ou des préjugés. Alors, Esprit de justice va se pencher ce soir sur la part psychique du travail du juge, en compagnie d'une psychologue, Martine Sandor-Buteau, qui est également psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris, professeur honoraire à Psychoprate de l'Institut catholique, et elle co-dirige une session théorie psychologique et pratique judiciaire à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, et elle co-anime des supervisions pour les juges, justement, et pour parler avec une psychologue, eh bien, une juge, Martine de Maximi, magistrat honoraire, après une longue carrière de juge des enfants, qu'elle fut pendant 22 ans, elle a présidé les assises, eh bien, elle a franchi le pas, elle est devenue elle-même psychologue et psychothérapeute, et elle accompagne les magistrats, ses collègues, ses anciens collègues, dans des supervisions et des intervisions, et co-dirige avec Martine Sandor-Buteau la session de formation de juge à l'ENM.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à toutes les deux. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment est-ce que vous êtes rencontrés ? Comment une psychologue, d'abord, comment vous vous intéressez ? Comment vous êtes-vous intéressée à la psychologie des juges, Martine Sandor-Buteau ?
Alors, j'ai rencontré Martine de Maximi à l'école des psychologues praticiens, à Psychoprate. Lorsque elle a monté avec Laurence Bégon cette session,
oui, c'est ça, qui est la troisième auteur d'un livre que vous avez écrit ensemble.
Oui, on a écrit un livre ensemble sur la part psychique du juge. Et lorsqu'elles ont toutes les deux monté la formation qui s'appelle théorie psychologique et pratique judiciaire, comme je connaissais Martine de Maximi, puisqu'on est deux Martine, de Maximi, elle m'a dit, viens, aide-nous à penser le programme, et puis, qu'est-ce que tu veux faire, toi ? Et moi, la première chose qui m'est venue, c'est que ça m'intéressait pas forcément d'expliquer à des magistrats les théories psychologiques, parce que, bon, ça peut être utile, mais voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'était de les interroger sur leur propre psychisme.
Et alors, ils ont parlé ?
Eh bien, à ma grande surprise, je m'attendais à beaucoup de résistance, de choses, de quoi vous me parlez.
C'est pas pour nous, on n'est pas psychologue.
Voilà. Eh bien non, j'ai rencontré une incroyable ouverture, une demande qui était là d'emblée, un besoin, je dirais aussi, de la part des magistrats qui ont vraiment envie, en tous les cas ceux qui viennent à une session
bien
comme
sûr.
Ça, bien sûr.
Et quel est le ressort de cette demande, Martine Sandor-Buteau ?
Écoutez, ce dont je me souviens, la première session, c'était qu'ils venaient chercher de l'oxygène, qu'ils venaient chercher des points de repère, qu'ils venaient chercher une capacité de regard sur eux-mêmes. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que d'emblée, il demande ce que j'étais venue essayer de... Alors, essayer, parce que
bien sûr.
C'était un sujet que je ne connaissais pas du tout.
Alors, Martine de Maximi, vous êtes magistrate, vous avez une longue carrière de magistrat derrière vous, et savoir ce qui se passait dans votre tête, ça vous a toujours intéressé ?
Oui, alors moi, j'ai commencé très tôt à m'interroger sur la façon dont je pouvais juger. J'ai commencé comme juge d'instruction, puis très très rapidement comme juge des enfants. Et assez vite, on a mis, avec un collègue qui était au parquet, j'étais à Versailles à ce moment-là, on a mis en place un groupe de travail de magistrats et de psychanalystes. Et on se réunissait une fois par mois, c'était des pédopsies d'ailleurs, qui étaient dans l'hôpital de psychiatrie du secteur. Et on se réunissait une fois par mois et on parlait de nos cas respectifs pour nous aider mutuellement. Alors évidemment, nous, on était interpellés quand même sur la façon dont on jugeait, dont on voyait les choses. Mais eux aussi, on les interpellait sur le fait que, de temps en temps, ils estimaient que comme c'était un malade mental, ils n'avaient pas rencontré la justice.
Oui. Mais alors, pour vous, en tant que jeune professionnel... juge d'instruction, j'imagine, vous débarquez, vous êtes confronté à des choses un peu terribles, Martine de Maximi.
Alors oui, je dois dire que juge d'instruction, j'ai pas eu vraiment le temps de m'interroger sur mon psychisme. C'est plutôt lorsque j'ai été juge des enfants que ça a commencé. Et j'ai une petite anecdote qui me vient, c'est que je me suis rendu compte que les grands-mères, certes des grands-mères qui étaient... très difficiles et qui profitaient des difficultés de leurs filles d'une certaine façon, mais quand même, que les grands-mères m'agaçaient prodigieusement. Et je me suis dit, c'est pas normal, là ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, donc pourquoi j'ai cette réaction particulière à l'égard des grands-mères ?
Voilà, et donc je me suis interrogée sur ma propre vie, etc. Et finalement, ça ne m'a pas quittée. Et c'est vrai que le travail que je faisais avec les psychanalystes à côté... m'a tout de suite mise dans cette idée de recul que je pouvais prendre par rapport à l'appréhension d'une situation.
Mais alors,
et au jugement.
Ben oui, parce que Martine Sandor-Buteau, quand le travail du juge, il est confronté. Ses émotions sont sans cesse aiguisées, confrontées, sollicitées par les gens qu'il a en face de lui. Alors surtout une juge des enfants, mais quelqu'un qui a commis un acte horrible, répugnant, il faut quand même le regarder, apprendre à le regarder comme un homme, par exemple.
Ben, il faut aussi apprendre à se tourner vers soi-même, ce qui n'est pas habituel pour le magistrat, pour effectivement prendre conscience de ses propres réactions, ses émotions, ces changements de comportement, des moments où il change de voix. Alors ça, c'est des choses qu'on voit dans les intervisions et que le juge peut apprendre à regarder ses propres comportements, apprendre à entendre et sentir ses réactions émotionnelles et affectives, mais aussi... il a des idées qui lui arrivent au milieu, là, qui ont l'air de n'avoir aucun rapport.
Et qui peuvent le perturber.
Et qui peuvent le perturber, comme l'histoire de la grand-mère, pourquoi je déteste les grand-mères. Mais aussi, il peut se dire, oh, qu'est-ce que je peux être un salopard, là.
Et parce qu'il prend parfois des décisions terribles, quoi, qui peuvent être destructrices, finalement.
Mais c'est pas seulement ça. C'est qu'au moment où il prend sa décision, il peut avoir une sorte d'image qu'il traverse sans qu'il s'en rendre compte. Il y avait une des personnes qu'on avait, un des stagiaires qui nous avait expliqué qu'il se souvenait. Alors, il y a des cas comme ça que le magistrat, il y a des cas qui poursuit le magistrat longtemps après et il nous en parle dans la session. Moi, j'étais très frappée par ça. Et en général, c'est quelque chose qui les a vraiment attrapés, quoi. Et c'est pas forcément parce que le cas était plus terrible qu'un autre. C'est parce que ça vient toucher quelque chose chez eux et ils le sentent. Alors ils disent, on est pris par quelque chose.
Martine de Maximilien.
Je veux dire que, alors, à la cour d'assises, c'est tout à fait illustratif, ça. Je sais très bien que, évidemment, comme tout président d'assises, j'ai été amenée à juger des affaires extrêmement dures. Mais il y en a une en particulier qui continue encore à me poursuivre. Alors que oui, c'était une affaire très dure.
Et elle était particulièrement dure ?
Oui, c'est une histoire d'enfant, donc c'était évidemment dur, mais j'en ai jugé d'autres. Mais celle-là, particulièrement, objectivement, j'avais les raisons d'être poursuivie par cette affaire, mais je pense que, inconsciemment, ça a touché des choses beaucoup plus profondes chez moi.
Oui, mais alors c'est difficile parce que le juge a un inconscient, comme tout le monde, mais comment être conscient de son inconscient, si je puis me permettre, Martine de Sandor-Buteau ?
C'est tout l'enjeu de les différentes façons de pouvoir... D'abord, je crois quand même que c'est une habitude de se tourner vers soi.
Il faut prendre
ce temps-là, alors qu'il y a tellement peu de temps. Alors, ils nous disent toujours, mais vous avez le temps. Et nous, on n'a pas le temps. Mais si, il y a le temps d'une respiration, le temps d'un retour sur soi, le temps d'une interrogation quand même. Prendre cette habitude-là, je vous dis, les comportements, les affects, les émotions, les pensées qui passent, l'impression que c'est comme si on n'est pas tout à fait dans la scène du réel, là. Qu'il y a comme une autre scène qui s'est activée et que je suis pas là, quoi. Il se passe quelque chose. On peut apprendre à l'entendre, ça.
Apprendre, Martine de Maximilien, à prendre le temps nécessaire, à se concentrer. J'ai été très frappé dans votre livre, dans ce manuscrit, sur l'attitude intérieure, c'est-à-dire l'audience. Le travail du juge, il commence quand il est tout seul. Et quand il a, bien sûr, préparé son dossier, mais qui s'interroge aussi sur lui.
Ça, c'est ce que je dis là.
C'est ça.
Et quand on dit prendre le temps, mais le temps, en fait, on n'est pas qu'au travail. Les affaires, ça ne boucle pas complètement quand on ferme la porte.
Oui, même au contraire, souvent les affaires d'assises,
on y pense tout le temps. Ça continue à nous travailler, et de plein de façons. Éventuellement, en rêvant, d'ailleurs. Donc, je crois qu'on reste habité par une affaire. Bon, après, je vais prendre quand même du recul. Je ne vais pas dire qu'on doit être tout le temps dans notre travail, de toute notre vie. Il y a aussi une espèce de discipline nécessaire à dire c'est terminé. Là, je suis chez moi et je ne suis plus dans mes affaires. Mais il y a l'étude du dossier, il y a la préparation. Qui est cette personne que je vais rencontrer ? Qui sont ces personnes que je vais rencontrer ? Je m'en fais une idée à travers le dossier, mais je reste souple. Sachant qu'à l'audience, il va se passer plein de choses. Et que la décision qu'on va prendre, éventuellement quand on est juge d'enfant en particulier, on a quand même une décision en assistance éducative. On va placer l'enfant, on ne va pas le placer. Mais bon. Mais l'audience peut tout bouger. Parce qu'il y a des interactions, parce que voilà.
Alors vous expliquez que les juges sont sujets à des biais de jugement. Dans ces biais de jugement, il y a plusieurs biais. Vous pouvez nous dire rapidement les plus classiques, le biais de disponibilité, l'ancrage. Alors, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à changer d'avis le siège.
Alors c'est deux choses différentes. Les biais, c'est à l'intérieur de toute la théorie cognitive qui a permis de montrer qu'il y a des biais d'ancrage, que voilà, et ça c'est une chose qui est enseignée aux jeunes magistrats, les différents biais dans lesquels ils peuvent aller, mais pouvoir changer d'idée, c'est encore peut-être aussi, c'est une attitude intérieure. Pour ce que vous parliez d'attitude, c'est il y a le comportement du juge, ce qui se voit. Et puis, il y a sa posture interne. Il y a alors, Rogers, lui, parle d'attitude intérieure. Freud va parler d'attitude psychique. Mais cette attitude interne, elle prend des colorations différentes selon les moments, selon avec qui c'est. Et on peut s'interroger sur quelle est cette attitude, qu'est-ce que je... Voilà, je sais
alors
pas si c'est très
on
clair.
Parle, que... On parle sur, dans l'hypothèse que le juge se maîtrise, Martine de Maximy. Or, en fait, il y a des fois les provocations, il y a des audiences qui se passent mal. Il y a des personnes qui nous impressionnent, qui vous impressionnent. Vous avez, tout d'un coup, on a envie de répondre à des provocations, par exemple. Comment est-ce que un juge peut gérer la réaction? Alors, pour le coup, l'attitude antérieure, elle anticipe ce qui va se passer, mais là, il n'a pas pu anticiper ça.
On parle là-dedans théorie humaniste, la Rogers, il y a une idée de congruence, notamment.
Alors, qu'est-ce que c'est que la
congruence ?
C'est
s'interroger sur... Enfin, si je, c'est un peu ça, s'interroger sur ce que ça me fait, être conscient de ce que je ressens. Et puis, en même temps, une autre... C'est accepter aussi l'autre. Accepter l'autre. Enfin, est-ce que j'ai
accepter,
le temps de citer
accepter,
un exemple ?
Oui, ben allez-y, oui, tout à fait, oui.
C'est une affaire d'assises, où un témoin... c'était une affaire assez grave où il y avait eu. Il était le témoin principal de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et le jour où il devait comparaître, on m'informe qu'il ne veut pas venir. Il a prévenu lors de la convocation qu'il ne viendrait pas parce qu'il a eu des litiges avec la justice et qu'il ne voulait pas aider la justice. Donc j'avais demandé au commissariat de convoquer, il avait répondu ça, et j'ai fait ce que je n'ai jamais fait d'autrement, mais j'ai utilisé du droit que j'avais de me faire amener
par
la force publique le lendemain, parce qu'effectivement c'était le témoin principal du dossier, et il est arrivé évidemment
furieux,
et je ne parlerai pas, alors effectivement c'est tout à fait son droit de ne pas parler. Et je me suis dit, mais au fond, cet homme, effectivement, il a eu affaire à la justice, il n'a pas été entendu, et je peux comprendre la colère qu'il a là. Je pense que le fait d'avoir pensé ça a déporté la façon dont je me suis comportée envers lui, et je me suis mise à lui parler, à lui demander qui il était, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, enfin, m'intéresser à lui, mais c'était... J'étais sincère quand on parle d'attitude interne.
Oui, c'est ça. La congruence, c'est être en accord avec soi.
Exactement. Et avoir un intérêt certain pour cet homme qui, finalement, à la limite, osait dire ce qu'il disait et osait refuser de parler. Et tout d'un coup, il a dit « Bon, eh ben moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. » Et il a, en plus, mimé la scène.
Oui, c'est ça. Ce qui arrive souvent, c'est que le corps se souvenait autant que son esprit.
Mais je crois qu'effectivement, j'aurais pas été... En accord avec moi-même, j'aurais joué un rôle, ça n'aurait pas marché.
Donc, c'est un travail difficile que d'arriver à cette congruence, Martine.
Oui, c'est un travail difficile. Je crois qu'il faut rajouter quelque chose à cette idée de congruence, c'est qu'il s'agit d'une acceptation inconditionnelle de soi-même. C'est-à-dire que les émotions qu'on a, quand on est magistrat ou quand on est psychanalyste, c'est pareil, elles sont comme elles sont. Et on a à s'accepter comme on est. On peut avoir une image idéale, alors l'idéal du juge, qu'il faudrait qu'on soit comme ci et comme ça. Ben oui, mais dans la pratique, il y a un moment où celui-là, j'ai plutôt envie de lui casser la tête en deux.
Oui, mais alors comment on fait dans ce cas-là? Parce que
alors,
on a tous...
Le magistrat peut se rendre compte qu'il a ces réactions-là. Et il peut accepter de façon... La congruence inclut une sorte d'amour de soi-même, si
oui, c'est
je peux
ça.
Dire.
Mais c'est en l'acceptant qu'il ne va pas céder à la provocation.
Exactement. C'est en l'acceptant... C'est très étrange, parce qu'on peut penser que c'est en le gérant, en mettant de
en
côté,
refoulant,
en refoulant. Mais plus on peut l'accepter, plus, d'une part, on peut s'en dégager. Ça permet de faire un pas de côté, contrairement à ce qu'on peut. Et d'autre part, ça donne à l'écoute du juge une sorte d'humanité... Il est un être humain et cette attitude interne du magistrat, l'autre le sent. La différence d'un magistrat qui se tient raide comme la justice, parce qu'il faut qu'il y a des moments où il ne peut pas faire autrement.
Et qui se protège peut-être pour
avoir annoncé
une décision difficile.
Et puis parce qu'il faut qu'il tienne quand même, faut pas non plus. Et puis un magistrat qui, comme ce que disait Martine, écoute, est un peu dans l'empathie, laisse venir quand même un peu, tout en ayant bien sûr à tenir. C'est difficile parce qu'il doit tenir la procédure, mais il doit aussi pouvoir laisser un peu flotter dans une attitude plus flottante, où il écoute un truc, puis il pense un autre truc, puis il pense ça, et son jugement, il va s'élaborer dans ce flottement.
C'est ça. Et donc, le juge, par son attitude, soit il referme par une attitude autoritaire, soit Martine de Maximy, il ouvre un espace. Il ouvre un espace que vous avez fait, finalement, dans cette affaire-là. Oui. Vous ouvrez un espace dans lequel il peut, lui, s'installer, et du coup, il se passe quelque chose.
Oui. Bon, alors, l'espace qu'on ouvre comme ça, c'est dans la justice des mineurs aussi. Hein, quand on s'efforce de recueillir l'adhésion des familles, on entre vraiment en relation avec elles.
Et on rentre dans leur monde culturel, dans leur monde familial.
On rentre dans leur monde culturel. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur, même avec des intermédiateurs qui venaient dans mon cabinet pour qu'on puisse communiquer entre cultures différentes.
Parce que comment est-ce qu'on fait quand on est confronté en tant que juge des enfants à une famille, disons une famille africaine qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça en France et on ne comprend rien?
On ne comprend rien. Enfin, on se rend compte qu'on ne comprend rien parce que parfois on ne se rend pas compte. Et effectivement, avec Thierry Barranger, d'ailleurs, qui était avec moi juge des enfants, on a instauré au tribunal pour enfants un travail en interculturel, et on avait un intermédiateur culturel qui venait, psychologue en général d'ailleurs, ou sociologue, ou anthropologue.
De la culture de cette famille ?
Alors, on essayait que ça soit ça, de la même culture, mais installée en France et diplômée en France. On avait travaillé aussi avec Étienne Leroy et Toby Nathan. Et qui venait et qui faisait le pont entre la famille et nous et la famille. Et les gens, effectivement, on leur rendait quelque chose de leur humanité complète. Et voilà. Et c'est...
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue à réfléchir à ce qui se passe dans la tête d'un juge sollicité par son travail et par les affaires en compagnie d'une magistrate, Martine de Maximy, et d'une psychologue, Martine Sandor Buteau, qui a choisi de nous faire entendre cet air, Le piège de la méduse pour piano, polka et quadrille d'Éric Satie. En l'occurrence, c'était interprété par Aldo Ciccolini. Martine Sandor Buteau, pourquoi ce choix?
Bon, d'abord parce que piège de méduse me faisait penser à piège de l'inconscient, avec méduse qui va partout.
Oui, c'est ça.
Et, voilà.
Oui.
Et puis parce que cette musique de Satie, elle est toujours un peu en décalé. Et j'ai l'impression que pour arriver à écouter son inconscient ou écouter son psychisme, il y a toujours ces trucs où on pense un truc, puis on pense un autre. Ce truc flottant dont je parlais, c'est ce décalage-là la musique qui me faisait penser à l'écoute telle qu'elle est.
Est-ce que précisément un juge qui est à l'audience, il ne peut pas trop flotter? Il faut qu'il tienne tout le monde, il faut qu'il pense à donner la parole. Je vois Martine de Maximy qui acquiesce. Il faut penser à beaucoup de choses hein, quand on préside une audience, encore plus quand on préside les assises. Martine de Maximy.
Ah oui, c'est...
Oui, mais...
À la fois, il faut penser beaucoup et en même temps, il faut rester souple. Voilà,
c'est ça la difficulté.
C'est quelque chose qui est assez difficile. Il faut donner la parole aux gens, il faut être respectueux et en même temps, enfin, c'est ce qu'on disait aux jurés d'ailleurs, on leur dit on va voyager dans cette affaire. Parce qu'il va y avoir des moments où vous allez penser « Ah ben oui, c'est sûr qu'il est coupable. » Et puis il y a d'autres moments où « Ah ben non, finalement, je me trompe. Il n'est pas coupable, il est manipulé. » Et puis un autre témoin va venir et va dire autre chose. Ça, c'est effectivement la capacité qu'on doit avoir de se dire « J'avais une idée au départ, mais il faut que je suis dans la vie et je suis avec des gens. » et je dois me comment dirais-je, m'adapter à eux ou rentrer dans leur schéma d'une certaine façon. C'est un peu ça.
Il faut se décentrer sur l'autre, Martine Sandor-Buteau.
Oui. Il me vient l'exemple d'une jeune magistrate dans la formation à qui on essayait d'expliquer il faut pouvoir flotter un peu dans l'idée que vous vous faites du cas et passer d'une chose à une autre quand même. Et alors elle disait quand j'arrive à bien écrire les motivations, je suis sûre que mon jugement est juste. Et puis une petite collègue à côté, une jeune collègue à côté lui dit oui mais sauf que tu peux, pour la même chose, avoir deux argumentations qui sont tout aussi valables. Et là, elle nous regarde et elle dit « Alors là, je perds tous mes repères. » Et il y a cette angoisse, effectivement, de perdre ses repères si on laisse un tout petit peu plus parler d'autres choses. Ce que faisait Martine, ce qu'elle disait tout à l'heure, qu'elle s'est mise à parler d'autres choses avec le prévenu, mais ça lui a permis de faire autre chose. Et en même temps, j'ai bien entendu qu'il y a c'est pas facile. Mais
d'autant que le juge va prendre des décisions qui sont... qui vont attentatoires aux libertés. On est même les seuls, il est le seul à pouvoir le prendre, à tenter à la bourse, à l'honneur ou à la liberté de ses congénères. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Martine de Maximy, j'ose pas dire endormir, mais à être trop sympa avec les gens, à un point dans lequel ils ne se rendent plus compte du risque que le cabinet du juge des enfants, une cour d'assises, c'est un lieu très risqué pour eux.
C'est d'ailleurs ce que nous renvoient les collègues... tant dans les formations que les supervisions d'ailleurs, espèce de se disant « mais quand je suis dans l'empathie, est-ce que je ne suis pas en train de les manipuler ?» Bon, alors, ça c'est aussi la culpabilité. Hein. Quand même, on peut dire que les juges, ils sont, pour beaucoup, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, donc c'est pas mal quand même, on en a vu beaucoup. Bon, ils prennent cette formation aussi. Il y a énormément de culpabilité. Enfin, moi,
mais pourquoi de culpabilité?
En tout cas, il m'en vient. Moi, je peux vous citer, je peux vous donner un exemple gars qui est d'ailleurs dans notre livre. Et on parlera du cadre en même temps, d'ailleurs. J'ai le cadre, j'ai un jour bouleversé le cadre à cause d'une culpabilité. Et j'étais juge des enfants. J'avais placé un enfant, sa mère était toxicomane, on avait peur qu'elle se suicide avec son gamin, donc c'était vraiment grave. Mais au début, avec le signalement, j'avais essayé de pas placer complètement l'enfant, mais il était parti en vacances, en ordonnance de placement, mais en vacances, dans une famille d'accueil. Et à la fin de l'été, les éducateurs m'ont dit, il ne peut pas retourner chez lui, la mère n'a rien fait, elle n'est pas arrêtée de se droguer, elle n'est pas en état de le prendre, il est en danger, il faut poursuivre le placement. J'étais très mal, parce que je me suis dit, je l'ai manipulé. Elle a accepté les vacances, et maintenant je lui dis, il ne rentre pas. Je fais une audience, je lui motive tout, je fais tout ce qu'il faut. Deux jours après, l'éducatrice me demande de recevoir à nouveau madame qui ne comprenait pas ma décision. Elle voulait que je la reçoive tout de suite, je lui donne un rendez-vous deux jours plus tard, à 4 heures. À 2 heures, la mère était devant mon cabinet avec sa sœur. La mère, elle tenait à peine debout. Et la sœur me dit, il faudrait que vous la receviez maintenant, parce que moi, je suis avec ma sœur, elle n'est pas bien, voilà. J'attends pas l'éducatrice, je la reçois à 2 heures au lieu
donc
de 4 heures.
Donc vous transgressez...
Complètement, je la reçois dans le bureau qui était à côté du mien, sans mon greffier. Enfin, vraiment, pour être tranquille.
C'est ça.
Et en fait, je réexplique ma décision, que je n'avais pas à faire, puisque je l'avais prise, j'avais écrit, donc tout était fait. Et la mère me dit, je veux mon fils, je veux mon fils, je veux mon fils. Madame, l'audience est terminée, vous pouvez faire appel. Je me lève, parce que comme elle ne partait pas, je me lève. Et à ce moment-là, elle m'agrippe, elle déchire mon pull, etc. Donc c'est la seule fois d'ailleurs où j'ai été agressée. Et je me suis dit, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi je me suis fait agresser cette fois-ci? J'ai beaucoup de malades mentaux d'habitude. Et ça se passe bien.
Parce que vous étiez sorti de là.
Complètement sorti du cadre à cause de ma culpabilité. Et là, comme j'étais sorti du cadre, j'étais une femme ordinaire qui lui prenait son gosse. Voilà. Ouais.
Et donc, tout le rituel judiciaire
ne marchait plus.
Comment vous expliquez cette culpabilité, Martine?
Alors, on l'a beaucoup regardé, parce que c'est très frappant à quel point le poids de la culpabilité est là chez tous les magistrats qu'on a entendus. Alors, le poids de la culpabilité, il est chez tout le monde. Mais là, il y a un poids supplémentaire.
Parce qu'ils prennent des décisions terribles.
Ils ont la culpabilité des décisions terribles. Ils se mettent dans une position, quand même, au nom de quoi j'ai le droit de décider de la vie des autres. Alors, c'est là que c'est intéressant, je pense, pour les magistrats d'entendre que plus ils regardent leur propre psychisme, plus ils arrivent à se dégager de la culpabilité. Ça, ils nous l'ont vraiment dit. Ils nous ont vraiment dit que, année après année, que après les 6 jours ou les 3 jours de travail sur leur psychisme, ils se sentent moins coupables et du coup, ils sont plus libres. Ils sont plus libres d'oser leur indépendance, d'oser leur position et même de se positionner par rapport à la hiérarchie. Ils se sentent plus libres.
Martine de Maximi. Et alors donc, le juge a besoin d'une rassurance. Il a besoin d'être rassuré. C'est aussi un peu la fonction du rituel judiciaire. Quand vous êtes présidente des assises, vous avez votre robe, l'hermine. Il y a tout un rituel, tout un cérémonial. Les avocats sont là. Et donc, finalement, votre rôle, il est dessiné par le rituel judiciaire. Vous devez jouer un rôle.
Ah, complètement, oui. Oui. On parle du théâtre de la justice, mais là, il existe.
Et il est rassurant, ce théâtre, pour vous?
Je ne peux pas dire qu'il soit particulièrement rassurant, non. Non, parce que les enjeux sont toujours les mêmes. Les enjeux sont toujours les mêmes, ils sont encore plus graves aux assises, de toute façon. Les conflits risquent d'arriver très vite, en fait. On est un peu toujours sur la corde raide aux assises. Et tant du côté des avocats que des victimes et que des accusés. C'est un boulot énorme, il faut tenir tout ça. Et en même temps, travailler à faire émerger la vérité par la parole, hein, parce que comme il n'y a pas l'écrit, par la parole. Donc c'est tout un travail de tenue du cadre et aussi effectivement à travailler sur nous, parce qu'il ne faut pas se laisser trop atteindre par les émotions non plus.
Alors comment, Martine,
c'est une question, on a passé beaucoup de temps à s'interroger sur la procédure, le cadre, le rituel. Alors à la fois tout le rituel met le magistrat dans une position au-dessus de la mêlée normalement, hein, c'est-à-dire
oui,
son
impartialité.
Pas seulement le protège, mais le positionne dans une position où il est au-dessus, magistrat du siège. Et il est, c'est presque un psychodrame, hein, oui. il est posé au-dessus de la mêlée et physiquement,
c'est un tiers, il occupe la position.
Oui, mais sauf que il faut qu'il arrive à l'intérioriser, cette position de tiers. C'est là que le travail psychique est important. C'est que ça ne suffit pas de dire « je suis un tiers parce que je suis juge et parce que mon statut m'y met ». Tout l'intériorité, tout le travail psychique que ça nécessite, tout le travail psychique qui fait partie du travail de justice, hein, c'est pour ça qu'on a pensé au terme travail de justice, c'est tout un travail intérieur très difficile où l'impartialité, elle n'est pas atteinte une fois pour toutes, hein, cette posture. Elle est à retrouver à chaque dossier, à chaque fois.
Ce qu'on disait de l'audience, c'est tout à fait patent. Parce qu'on a passé un certain nombre de jours à travailler un dossier. On s'est imaginé des choses par rapport à ce dossier.
Il y a un travail d'imagination
imaginé. Moi, je sais, quand je commençais un dossier, je me précipitais sur la personnalité de l'accusé. Je me disais, qui je vais juger là? C'est qui? Bon. D'accord, mais c'est quand même que des écrits, etc.
Donc on commence par s'imaginer une scène,
ouais,
des personnes.
On s'imagine, et puis après, effectivement, on essaye de prendre les faits, d'être au plus près possible des faits, de la vérité. Mais bon, à l'audience, peut nous échapper, quoi. Enfin,
l'audience, c'est la mer, disait Robert Banater. L'audience, c'est-à-dire, on part, elle est calme, et puis tout d'un coup, ça peut bouger,
puis ça peut se devenir calme de nouveau. Oui, mais c'est assez passionnant, je veux dire, quand même.
Oui, et on a le temps, dans toute ce nombre de choses à penser, on a le temps encore de penser à soi, Martine de Maximi, à son attitude, à la manière dont on pose les questions.
Ah ben oui, bien sûr. Oui. Bon, on a la procédure, hein, ça aide énormément. L'ordre des questions, par exemple. L'ordre des questions, c'est vraiment tellement ritualisé. C'est, d'abord, ça vous permet de souffler un peu, hein, que à chaque fois qu'on donne la parole à quelqu'un. Mais effectivement, oui, mais bien sûr, on continue à penser. Bien sûr.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est important, qui va avec l'espace, Martine Sandor-Buteau, c'est le silence. Dans une audience, il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui se taisent ou qui veulent pas parler, comme la personne que vous avez fait décider d'amener par la force. Il faut être capable d'endurer le silence, de gérer le silence dans une audience. C'est pas toujours facile, non?
Alors, je ne sais pas comment c'est parce que je ne suis pas dans la tête du magistrat et surtout pas dans sa position, mais ça m'évoque l'analyste qui doit supporter le silence. Parce qu'on parle du patient qui doit supporter le silence de l'analyste, mais l'analyste, il doit aussi supporter quand le patient ne dit rien, quand le patient ne parle pas. Et là, à cet endroit-là, au moment du silence, il va y avoir beaucoup d'images et beaucoup de projections. Il y a toute la question de la projection qui se pose à ce moment-là.
Et alors, comment est-ce qu'on gère un silence, Martine de Maximi?
Là, je l'ai expliqué.
Oui.
Je repense, mais je sais pas. Personnellement, je me rappelle pas avoir eu autant de silence à gérer aussi difficile dans les fonctions que j'ai observées. Même à l'instruction, non.
Alors.
Il y avait. Mais par contre, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais lors des interviews avec les magistrats, c'est quelque chose qui revient assez souvent. C'est pas, je dis ça peut-être parce que je pouvais accepter aussi que les gens ne parlent pas pendant un temps. Et est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas ou est-ce qu'on veut meubler à tout prix?
C'est ça.
C'est ça la question. Et ça, les collègues, ils se posent beaucoup de questions là-dessus.
Alors, il y a un mot que vous employez, qui est un mot crucial, Martine Sandor-Buteau, c'est le mot de contre-transfert. Qu'est-ce que c'est que le contre-transfert? Expliquez-nous comment c'est aussi important dans le travail du magistrat.
Magistrat, oui. Ça suit ce que j'ai dit tout à l'heure sur la projection. C'est-à-dire que, ça vous le sentez, le magistrat le sent très bien, que le prévenu ou l'avocat lui projette dessus qu'il va pas l'écouter, que ça va être nécessairement injuste. Il est mis dans la position du parent, du mauvais parent, du mauvais parent, du méchant, qui va pas l'écouter. Et c'est comment... c'est très interactif, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être mis à cette place-là? Est-ce que vous allez essayer de convaincre l'autre que non, je suis gentil-gentil? Ben non, vous n'êtes pas gentil-gentil, vous êtes quand même un magistrat. Mais vous n'êtes pas non plus méchant-méchant. C'est-à-dire, comment est-ce que ça va influencer votre attitude et votre perception de l'autre et de vous-même? Ça, c'est le contre-transfert. Et le contre-transfert, il est toujours inconscient, donc on en sent la manifestation. Et ce sont des contre-projections.
Ça veut dire que là, on touche de très près, on se rapproche de l'acte de vie, Martine de Maximi. Ça veut dire que le contre-transfert, ça veut dire qu'il faut saisir rapidement le sentiment que provoque chez vous la personne que vous avez jugée, de façon à pouvoir lui apporter la décision la plus impartiale, la plus détachée de ce contre-transfert.
Il faut saisir rapidement pour se détacher, effectivement.
Alors, comment vous faites? Vous pouvez nous raconter comment ça se passe dans la pratique, comment vous pouvez en une fraction de seconde, en quelque sorte, saisir les sentiments que soulève chez vous tel accusé qui a commis des faits horribles ou telle personne qui est vraiment vous citiez dans le livre, vous citez le fait d'un escroc qui s'est pas fait prendre pendant 10 ans mais qui avait fait porter la culpabilité de ce qu'on lui reprochait sur un cousin.
On a su ça, c'est une collègue ou un collègue qui nous avait parlé de ça. Mais j'ai envie de dire que, un peu à l'inverse, j'ai eu parfois des contre-transferts qui m'ont amené à avoir une attitude qui était quand même plus dure que je n'aurais eu si je n'avais pas eu ce contre-transfert très, très rude.
C'est-à-dire que?
Par exemple, face à un pervers.
Alors, c'est comment vous contrôlez un pervers?
Face à un pervers qui, c'était quand même quelque chose d'extrêmement grave, extrêmement pénible. Et je me suis dit que je l'aurais. Et j'ai tout fait, alors dans les légalités bien sûr. Hein,
et là vous étiez dans un rapport, vous parlez du chat et de la souris,
oui.
C'est-à-dire vous étiez dans un rapport où finalement qui allait avoir la maîtrise
un
de l'audience,
c'était
lui ou
ça.
C'était vous?
Oui, c'est ça. Et ça effectivement, mais en fait là pour le coup j'ai accepté, j'ai été consciente de ça et j'ai accepté.
C'est ça. Consciente de ce qui vous provoquait, et ce que vous aviez envie de gagner, ce jeu.
Alors,
qui se passait
peut-être pour aller un petit peu plus loin, j'ai été consciente qu'il était pervers. J'avais beaucoup étudié ça, les cas de pervers qui essayent de coincer les juges. Donc là-dessus, j'étais là-dessus. Après, dire que j'ai été jusqu'à analyser mon contre-transfert un peu plus loin, peut-être pas. Hein, parce que ça, on l'a, on en a reparlé.
C'était très intéressant. C'était très intéressant quand on a travaillé, parce qu'on a travaillé à trois. Et Laurence et Martine amenaient des cas. Et amènent des cas, précis. Et alors, elles n'avaient pas vraiment l'habitude de. Même si elles avaient l'habitude du travail psychique, elles n'avaient pas l'habitude de regarder de ce point de vue-là. Donc, on le retravaillait ensemble. Et par exemple, ce cas-là, que tu avais déjà beaucoup travaillé, on le retravaillait ensemble.
Alors,
ce qu'on peut faire en supervision.
C'est ça, bien sûr. Vous retravaillez en quelque sorte. Mais est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce que c'est qu'un pervers? Parce que là, Martine de Maxigny pose un diagnostic. Elle dit, j'ai en face de moi un pervers.
Enfin, les psychiatres l'avaient dit aussi.
C'est ça, oui, bon.
Alors bon, on va pas faire de la psychopathologie, mais une des définitions du pervers, c'est une intelligence sans cœur. J'adore cette définition-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de cœur, plus d'empathie, plus voilà, alors après, il peut avoir une certaine jouissance, une certaine jouissante à prendre le pouvoir sur l'autre, ce qui était le cas là. Mais c'est cette espèce d'intelligence. On a l'impression d'avoir affaire à un animal à sang froid, quoi.
Qui continue de réfléchir sur ce qui se passe dans la tête d'un juge en compagnie d'une psychologue, Martine Sandor-Buteau, et d'une magistrate, mais qui est devenue psychologue ensuite, Martine de Maxigny, qui a choisi de nous faire entendre ce morceau des Indes galantes. C'est le moment qui s'appelle Forêt paisible, qui était de Jean-Philippe Rameau. Martine de Maxigny, pourquoi ce choix ? Forêt paisible, c'est le contraire d'une audience, une forêt paisible.
Oui, précisément, c'est pas très paisible. Ce qu'on voit sur la scène, là, on le voit pas. Mais on l'entend, on l'entend. Outre la beauté du morceau, c'est autre chose, mais c'est très symbolique, en fait. Ce morceau, à l'Opéra de Paris, en 2021, je crois, a été dansé. En danse, c'est le crump, une danse qui ressemble un peu aux danses africaines, capoeira, etc., par des jeunes, une chorégraphie avec des jeunes, on pourrait dire, je vais simplifier, hein, des jeunes de banlieue.
Oui.
On les voit sur la scène en jogging, etc., danser cette danse extraordinairement expressive, et les chanteurs de l'opéra se mêlent à eux et sont au milieu. Alors, dans ce lieu où, quand même, se retrouvent toutes les passions du monde, hein, l'opéra, mais qui est quand même, en général, dévolu à des gens qui sont cultivés, entre guillemets, et habitués à ça, c'était exceptionnel. Ils ont été ovationnés. Et moi, j'ai réalisé... je vous ai demandé de le passer, parce que pour moi, c'est un peu la quintessence de tout ce qu'un juge des enfants peut espérer. C'est-à-dire que tous ces jeunes accèdent à la culture et puis à la société cultivée, savante, etc.
Voilà. L'intégration, mais tout cela réclame, Martine Sandor-Buteau, un concept qui est central pour le travail du juge, c'est le concept d'élaboration. Il faut que le juge élabore, on l'a vu depuis le début de cette émission, qu'il élabore ses sentiments. Ça veut dire qu'en même temps qu'il a une affaire objective qui se déroule devant lui, lui, il envoie l'acteur intérieur.
Oui, alors le terme élaboration, on le comprend bien si on va chercher comment ça se dit en anglais. On dit « working through ». Être travaillé ou travailler à travers ou être travaillé. Et je pense que le magistrat, il a l'habitude de travailler son dossier en regardant d'un point de vue judiciaire. Et là, l'idée, c'est de se laisser travailler aussi par ses émotions et d'inclure dans cette élaboration d'un travail, d'inclure ses émotions, ses affects, ses pensées incidentes et d'apprendre cette élaboration-là. C'est pour ça qu'on parle de travail de justice. C'est un travail qui est aussi un travail intérieur, qui est aussi le travail intérieur, comme un conciliabule intérieur du juge où il cherche son intime conviction. Hein.
D'ailleurs, c'est le terme même d'intime conviction montre bien le fort intérieur, montre bien que c'est un travail où il épouse successivement telle thèse et puis telle autre, et que, comme ça, il arrive à se convaincre. Alors, on a beaucoup parlé donc de ce qui se passe dans la tête d'un juge, dans un travail du juge quand il est à l'audience, mais comment est-ce que vous faites? Vous avez une technique particulière, Martine de Maximi, qui a été appliquée à la justice, s'appelle l'intervision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, l'intervision?
Alors, l'intervision, c'est deux collègues qui vont s'observer mutuellement à leurs audiences respectives. Ils ont une grille d'analyse avec plein d'items possibles. Vous avez l'attitude à l'audience, le regard,
tout ce qui passe,
le silence, le ton de la voix, voilà, tout ce que d'ailleurs le justiciable peut voir. Hein, voilà.
Mais que le juge ne voit pas nécessairement.
Et que le juge ne voit pas.
Parce qu'il est
l'acteur. Dont d'ailleurs d'éthique éventuellement, dont il n'est pas conscient, etc. Et après, ils vont se restituer leurs observations. Et c'est vrai que lorsque, il y a longtemps d'ailleurs, c'est depuis plus de 10 ans, oui, facile, lorsque ça a été présenté, je commençais à être psychologue, et j'avais dit que quand même, il faudrait quelqu'un qui soit là à la restitution. Parce que ça peut être dur. Moi, j'avais essayé de le faire avec un collègue et je l'ai très mal supporté.
Pour que l'auditeur comprenne bien, il y a un juge qui vient à l'audience d'un autre juge,
voilà,
qui regarde comment
c'est
il fait.
Voilà. C'est ça. Admettons.
Et vice versa après.
Voilà. Et l'autre, va à l'audience de l'autre.
Ouais, c'est ça.
Bon. Alors, il y a quand même, il faut la bienveillance.
Bien sûr.
En général, c'est de la cooptation. Et puis, évidemment, il faut garder, on dit rien, quoi. Bon, ça ne sort pas, du cabinet.
Bien sûr.
Et voilà. Et moi, je, et puis on commence à être plusieurs, j'accompagne la restitution de l'intervision. J'aide à la restitution de l'intervision.
Et donc, ça permet comme ça au magistrat qui a été observé d'avoir un retour, mais un retour
sur lui-même.
Sur lui-même. Mais c'est un retour qui est à la fois professionnel et à la fois dans son comportement.
Voilà. Non, alors c'est pas sur la décision, c'est pas
bien sûr, bien sûr, mais c'est la manière de tenir son audience.
Et la manière de tenir son audience, parce que c'est effectivement le but recherché, c'est est-ce que je suis impartial et au-delà de ça, est-ce que j'ai donné l'impression que j'étais impartial?
Oui,
est-ce que j'ai écouté suffisamment les gens? Est-ce que l'audience a été productive ou est-ce qu'elle ne l'a pas été? Moi j'admire, hein, c'est un vrai souci de perfectionner son travail, qui d'ailleurs est fait en général par des gens qui déjà de toute façon travaillent bien, mais
ça veut dire qu'il faut mettre son ego un peu au vestiaire.
Mais en même temps, je crois que c'est intéressant d'entendre qu'ils en font parfois plusieurs des intervisions, et ça peut permettre d'intégrer cette attitude de s'observer soi-même avec bienveillance. En plus, d'ailleurs, souvent, on observe l'autre avec plus de bienveillance que soi-même, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qu'on apprend petit à petit à cette observation de soi-même avec une certaine bienveillance de soi-même.
Ça les sécurise, hein, d'une certaine façon. Et c'est intéressant de voir qu'à certains moments, ils disent... Oh là là, mais... Parce que moi, je débriefe avec chacun d'abord, avant qu'ils se voient tous les deux. Hein. Et je leur demande, qu'est-ce que ça vous a fait d'être observé quand même? Ça, c'est important aussi. D'ailleurs, il y a des choses qui sortent à ce moment-là. Et là, ils disent, celui-là, il m'avait tellement énervé. Enfin, ça a dû se voir. Et l'autre n'a rien vu. En revanche, parfois, quelque chose a échappé dont l'autre ne s'est pas rendu compte. Donc tout ça, il y a un travail là-dessus qui est très intéressant et puis qui va après déborder aussi sur les considérations... justice, travail, etc. Ce qui leur fait
parce que tout
bien.
Cela est fait dans une perspective d'un travail de justice, justement.
Exactement,
ce qui est très important, c'est un travail de justice. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé, ça construit l'impartialité et ça construit l'image de la justice. Vous avez dit, c'est une école très importante aux États-Unis. C'est-à-dire, ça s'appelle la justice procédurale. Le terme est un peu énigmatique. Justice procédurale, ça veut dire qu'on est jugé, la justice va être jugée sur l'apparence autant que sur la décision, sur la manière dont on s'est comporté, je parle sous votre contrôle, Martine Sandor-Buteau, la manière dont le juge se comporte, dont il écoute, dont il respecte les personnes, c'est là-dessus que c'est ce que va retenir le citoyen, plus que la décision.
Vous faites allusion aux travaux des gens comme Tyler.
Tom Tyler,
qui s'est interrogé sur qu'est-ce qui fait que quelqu'un accepte la décision et veut bien obéir à la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est pas forcément parce que il a eu un jugement favorable. C'est parce qu'il a eu le sentiment et il a ressenti dans, eux ils appellent ça du care.
Manière d'être traité, on pourrait dire.
La manière d'être traité avec bienveillance, justement, avec respect, c'est l'écoute. Alors à partir de cette idée-là, parce qu'ils ont fait des études qui ont montré qu'il y avait une réelle incidence, en particulier sur la récidive. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'attitude du juge, c'est pas le jugement, c'est même pas la peur d'être puni qui va permettre, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas la peur d'être puni, c'est d'avoir été reçu par une justice et d'avoir peut-être pu intégrer quelque chose de ce que c'est que la justice.
Dans le sens d'être respecté, d'une expérience d'avoir été respecté.
D'avoir été respecté et de... voilà, il y a presque un travail éducatif.
Et quelle importance,
Martin Maxime. J'ai envie de rebondir sur l'attitude interne dans un exemple justement de débriefing d'intervision. C'est deux juges, il y en a un qui... va chercher les gens dans le couloir, leur serre la main, asseyez-vous, très, très, comme ça,
courtois,
oui. Et l'autre qui, au contraire, reste derrière son bureau et ne bouge pas. Et donc, ils en ont parlé en intervision tous les deux, parce que celui qui est effectivement assez, vraiment dans la relation avec les autres, disait à celui-là, ça m'a quand même étonné que tu restes toujours derrière ton bureau, etc. Et l'autre lui dit, mais écoute, je pense pas que ça gêne beaucoup les justiciables, parce que il y en a un monsieur, là, où j'étais là, qui est venu me voir, qui m'a dit, bon courage, monsieur le juge. Donc je pense que l'attitude, parce que je connais aussi ce magistrat, l'attitude interne, qu'on soit derrière son bureau ou qu'on aille chercher les gens, en fait, c'est ça qui passe.
Mais ça veut dire qu'il y a une continuité entre ce qu'on veut être ou ce qu'on croit être une bonne justice respectueuse des justiciables.
Exactement.
Et son attitude,
être en accord avec soi-même, être en accord avec soi-même, et on peut le faire passer aux gens. Voilà.
C'est ça. Et c'est ça, alors, c'est peut-être ça la congruence. Il y a une expression, être la congruence, c'est précisément, c'est l'honnêteté
avec soi-même. Avec soi-même et être en accord entre ce que je dis, le son de ma voix, mes paroles, ce que je dis, ce que je ressens. Et ce qui est à l'intérieur de moi. Alors des fois, ben j'en sais rien. Hein, je suis pris par quelque chose. Et là, je suis plus congruent, même sans le savoir. Mais par contre, le justiciable le sait. Ce qui est compliqué, c'est que le justiciable, parfois, il projette aussi. Donc ça peut être.
Mais
il
ça
vous
veut
sent
dire
pas
que
vous.
Je m'adresse à un psychologue, c'est-à-dire que s'intéresser à ce qui se passe dans la tête d'un juge, ça veut dire qu'on ne peut pas évaluer une attitude indépendamment des valeurs politiques ou des valeurs sociales qu'il doit porter, Martine
Sandor. Bien évidemment, ça fait partie de tout ce qu'il est. Alors, est-ce que vous êtes en train de parler des fondements de la justice?
Non, je parle de l'idée que l'impartialité, c'est Martine de Maximy, que l'impartialité, on joue un rôle, on joue les valeurs de la justice. On met en œuvre, par sa manière d'être, les valeurs de la justice.
Absolument.
Et c'est finalement, c'est ça, être juge. Et c'est bien jouer le rôle du juge et le plus en accord avec soi-même.
C'est ça. Le plus honnêtement possible, j'ai envie de dire.
Oui, c'est presque les incarner, on pourrait dire, ou les intérioriser au point que ça fasse partie de moi et c'est mon identité de
et
juge.
Et ça veut dire que le justiciable va ressentir, au-delà des mots, Martine Sandor-Buteau, le justiciable va ressentir cette authenticité et va ressentir la manière dont, c'est vrai, parce que le juge les habite en quelque sorte.
Oui, et puis il va peut-être aussi ressentir l'effort qu'il fait pour les habiter. Peut-être parce qu'il ne faut pas qu'on parte dans quelque chose qui est trop idéal. Le juge, il tend vers ça. Il est toujours en train de tendre vers ça. C'est peut-être pour ça aussi que c'est si difficile d'être magistrat. C'est que il y a cet idéal et c'est important de l'être. Il y a d'où cette culpabilité et ce poids. Tend vers ça. Mais le justiciable peut sentir qu'il est en train de tendre vers ça. Et ça suffit.
Et ça suffit. Et ça suffit. Alors on parle d'effort. Et qui dit effort dit fatigue. La fatigue aussi, c'est une donnée, Martine de Maximy, c'est une donnée du travail du juge, comme de toutes les professions, sauf que sa profession, quand on est fatigué après une session, une grosse journée d'assises, ou après une session d'assises, c'est au moment où il va falloir prendre une décision. Comment est-ce qu'on fait pour gérer cette fatigue?
Bah écoutez, je crois que, miraculeusement ou presque, on arrive à... En général, la fatigue tombe après.
C'est-à-dire,
on tient jusqu'au moment où on
rend la décision.
Surtout, alors, si vous parlez des assises, c'est tout à fait éclairant. Et d'ailleurs, ça ne retombe que plusieurs heures après. Hein.
Oui.
On développe une énergie, si vous voulez, extraordinaire. Et bon, la fatigue, on la sent pas. Il arrive quand même que, dans d'autres circonstances, moi, j'ai eu une fois où je n'ai pas, je pense, suffisamment pris en considération les éléments de l'affaire parce que j'étais très fatiguée.
Et il y a aussi, Martine Sandor-Buteau, ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle. Tout ce dont on a parlé, ça demande quand même une très grande attention, une très grande concentration, même sur soi, même pour laisser... Est-ce que ce n'est pas un facteur, sur lequel il faut que les psychologues s'intéressent un peu aux juges?
Si, tout à fait, ça faisait partie de la nécessité du soutien qu'on doit avoir, qu'on doit leur donner, parce qu'ils sont quand même... très important dans notre société actuelle. Ils tiennent quelque chose de très important. Ils tiennent la démocratie de façon très forte. Et je ne suis pas sûre que le public s'en rende compte. Et moi, en travaillant comme ça avec les juges, j'ai été incroyablement frappée à quel point l'image que je pouvais avoir a priori avant d'un juge et celle que j'ai maintenant que j'ai travaillé avec eux et avec leur psychisme, ça n'a rien à voir.
Eh bien, on terminera sur cette parole réconfortante, ou du moins qui montre l'importance des juges dans la démocratie. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez rédigé un livre qui va bientôt être publié. On ne sait pas encore quel sera l'auditeur. Esprit de justice est terminé. À la technique ce soir, il y avait Anthony Thomasson. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la préparation, Laurence Genepin. Une émission d'Antoine Garapon.